plaît. La direction vous remercie.
Marceau, le midi.
Hey Pascal, les partenaires sont pas encore arrivés chez Leclerc Communication, puis je vois des rapprochements.
Des rapprochements entre collègues?
Ben oui.
Mais on n'est pas réputé pour ça, là. On n'est pas en santé.
On est quoi?
On n'est pas en santé, nous autres, là.
Ah, c'est dans le monde de la santé qu'il y a des parties de Noël qui sont particuliers?
Non, je vais juste lire le prompteur en ce moment, puis c'est ça qu'on m'a dit dire.
Moi, je pense que dans la restauration, c'est pas mieux que la santé. Là.
Santé, restauration, droit.
En droit?
Mais je lis le prompteur, là.
C'est vrai? C'est écrit quelque part.
Ouais, oui, je lis.
Toi, ça t'es-tu déjà arrivé de rencontrer quelqu'un au party d'employé?
Au party?
Ouais.
D'employé, non.
Non, jamais.
Non.
Même quand t'étais jeune. Qu'est-ce que ça fait?
Mais j'ai rencontré quelqu'un où je travaillais quand j'étais jeune.
Ouais.
Mais au party d'employé, c'était déjà fait.
C'est pas là que ça... OK. Moi, j'ai déjà vu quelque chose d'épouvantable. Un gars qui était en couple depuis des années, mettons 4-5 ans, puis...
Je t'ai dit de pas parler de tes histoires personnelles à la radio.
Ça m'est jamais arrivé, moi, dans un party d'employé.
Dans un party d'employé.
Il était en couple depuis 4-5 ans. Puis il était tout le temps comme très... C'était en restauration. Il était tout le temps très ami avec une autre. Puis à un moment donné, ben sa blonde avec qui il était depuis 4-5 ans, dans le party d'employé. Puis là, elle cherche son chum. C'est drôle, son chum, mais...
Ils travaillaient ensemble?
Ah, les trois travaillaient ensemble. Puis ce gars-là que je te parle, il travaille dans le même immeuble que moi actuellement, là. Peut-être qu'un jour, je t'en parlerai.
En tout cas, s'il est présenté, donné, il sait déjà comment je l'appelle.
C'était comme une genre de salle où il y avait un stage avec des rideaux. Okay, à un moment donné, elle a ouvert les rideaux comme ça. Là. Comme dans les films.
Parce que lui, il faisait un spectacle.
Comme des rideaux de fenêtre.
Oui, c'était un rôle d'acteur, c'était pas lui.
D'un bord comme de l'autre, elle a fait chou. Et là, tout le monde a vu le gars que je te parle, plus la fille avec qui il était très ami dans l'entreprise. Mm. Il était en train de se frencher.
Mais
pas un petit French, là.
Non, mais c'est un rôle d'acteur, tu vois. Il était derrière les rideaux, il pratiquait un rôle.
Il était
pas
parti
lui.
Pour la gloire.
Non, c'est pendant qu'il a dit ça. Là.
Je trouvais ça bizarre parce que j'étais allé dans le. Il fallait que j'aille faire un tour dans le passage, puis je me suis retourné à gauche. Puis dans le fond du passage, il y avait quelqu'un que je connais très bien, avec une cocune que je connais très bien aussi. Puis il était très proche. Puis là, ben, avant que mes yeux fassent le focus, parce qu'il était très loin, je me suis rendu compte qu'elle l'aidait à s'étirer. Parce qu'ils font de l'exercice dans les marches, ils font des marches, tu sais, là. Fait qu'elle l'aidait à s'étirer. Mais il était proche en sacrament.
Là, c'est-tu un segment, on radote du monde, mais en étant le plus, je sais pas, flou possible?
Écoute, il s'est passé de quoi, peut-être.
Mais pourquoi t'as pensé à ça? Pourquoi est-ce qu'on vient d'ouvrir le segment, puis tu me dis, toi, les partenaires de Noël...
Ben, je viens de te dire de ce que je viens de voir.
Ben oui, mais
je suis
comprends.
Dans le corridor, je vois deux collègues qui sont en train de se taponner.
Ça te fait penser automatiquement à ça.
À toi.
Fait que là, tu t'es dit, on va dire ça en nom, nous autres.
Exact.
Pour avoir l'air d'une gang de tout croche.
Exact.
Quand finalement, c'était juste de l'aide physique. Moi, je t'aiderais pas à t'étirer, là, chose certaine. Je sais où tu vas aller dans ta tête.
Non, mais admettons, là, t'es en couple avec un gars, OK?
Oui, admettons.
Là, toi, tu es gentil, tu viens porter son lunch sur l'heure du midi. Puis lui, il est à terre. Je vais te décrire ce que j'ai vu, là. Il est à terre dans le fond du corridor.
Oui.
Puis il y a une collègue qui connaît bien, qui est en train de l'aider à s'étirer.
Oui.
Là. Mais très proche, là.
Ben là, très proche.
Très proche.
Ben là,
tu penses quoi, là?
Avais-tu le nez dans ses articulations ou avait juste sa main proche d'une...
J'aurais des questions à poser. Ah, vraiment des questions
Qu'est-ce
à poser.
Qu'est-ce que tu nous fais là?
Mais bref.
Écoute, ça nous regarde pas rendu là, hein, parce qu'on devient automatiquement complice si on sait puis on dit rien.
J'aime ça, les potins, moi. 5 degrés sur Québec pour aujourd'hui, c'est nuageux.
Oui, mais il paraît qu'il fait 30 dans le corridor.
Des probabilités à 40% d'averse, bien entendu, maximum de plus 3. Demain, mardi, de la pluie intermittente avec un maximum de 10 degrés. Mercredi, ce sera nuageux avec de la pluie, maximum de 17. Jeudi, le retour du soleil avec un plus 5. Et vendredi, ce sera de la pluie intermittente, maximum de 6 degrés. Pour nous joindre en studio, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. C'est le chroniqueur David Chabot qui est en studio. Salut, David.
T'es sûr, t'avais pas line up, mettons, Louise Deschâtelet, je suis pas la bonne personne. Je sais être sûr qu'il croit.
Toi et moi, on se demande ce qu'on fait en ce moment. Cœur, là,
David, t'as travaillé longtemps dans la restauration. T'as vu ça, toi, des couples se faire et se défaire pendant des parties d'employés?
Ouais, mais ce qui est là reste là. Dans un party de job, ça reste là.
T'es un danger.
Non, 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 pas moi. Moi, j'ai jamais fait ça, mais je t'étanche.
Oh, puis, tu dis quand même, ce qui est là reste là.
Tu dis rien, toi. Hey,
après, après là, quand tu revois la conjointe ou le conjoint de la dite personne que t'as vu frencher et où s'émoustiller et où s'étirer avec un autre collègue, là, t'es pas mal à l'aise puis t'as pas un petit sourire de clown en voulant dire hi-hi,
mais en fait, moi, je considère comment tu te comportes dans un party de job, c'est synonyme de comment tu es comme personne.
Oui. Dans la vie.
Alors,
je fais de la collecte d'informations dans ces moments-là pour comprendre comment les gens réfléchissent, comment ils agissent, tout ça. Après ça, leur problème à la maison, c'est pas moi qui va stimuler ça.
Je comprends. Mais si la conjointe vient te voir en ligne, salut David, ça va bien, nanana. Hey, on a une super maison, ce serait le fun de recevoir les collectes. Tu y vas-tu?
Ben, si ça arrive, moi, t'appeler. Tu me diras comment réagir. Parce que je veux
je
pas
donner des conseils à
distance. Mais le pire, c'est que je pense que quand les deux collègues qui ont eu des rapprochements pendant le party d'employé, tellement qu'ils étaient sous, se croisent pour la première fois le lundi suivant.
Sûrement. Les beaux malaises.
Ouais. Mais là, t'es pas obligé d'être en couple.
Moi, je veux être là.
Tu penses que Martin Matt va sortir la tête sur le coin? Là?
Mais t'as pas besoin d'être en couple.
Ouais.
T'sais, mettons que t'as fricoté dans le party de Noël puis t'es pas en couple, tout le monde était célibataire. Même quand tu viens qu'à te recroiser, ça doit pas être la chose la plus... c'est pas à l'aise, c'est à l'aide. Là.
Mais bref, deux verres seulement pendant les parties d'employés, c'est tout.
Mais là, si t'es pas capable de contenir avec plus de verres, il est peut-être là le problème.
Ah, c'est vrai,
l'alcool. Si tu deviens une autre personne après... L'alcool n'est jamais la raison, hein. Les valeurs le sont.
Oui, Mère Thérésa.
C'est deep.
C'est
très deep. David Chabot, on parle un peu d'actualité en ce moment. On en a parlé tantôt avec Jérémy Gio. Les élections aux États-Unis, ça prend énormément de place. Je te pose la question à toi. Ça te surprend-tu que les gens au Québec s'intéressent autant à la politique américaine puis qu'ils se désintéressent à ce point de la politique municipale, la politique provinciale, fédérale? Moi, ça devrait être l'inverse. T'sais. Si la politique américaine vous inspire, ben, je trouve ça le fun. Mais pensez aussi qu'il y a des choses plus près qui vous touchent.
Tu as absolument raison. Donald Trump est un gars qui est très bon pour attiser les médias. Fait qu'on en parle à tous les jours. Puis qu'est-ce qu'il parle se retrouve à la télé parce que c'est ça qui intéresse les gens. Puis c'est comme une roue sans fin, tu sais. Puis je porte pas de jugement avant Donald Trump, c'est juste que ça fait trois élections en ligne qu'on le voit passer à la télé pour nous dire que ça c'est un ci, puis lui c'est un ça. Puis fait qu'évidemment que là, tu sais, tout le monde s'enflamme. Puis là, tu sais, je veux dire, même au Québec, là, nos politiciens ont des torts, ça va, là, mais tu sais, ils s'accusent pas mutuellement de manger des chiens et des chats dans la cour chez eux, là, tu comprends? Fait que tu sais.
Mais pas c'est qui a chat, c'est qui le chien.
Hein? Comment ça dit?
La joke, elle tournait beaucoup après.
Ben oui, oui, absolument, absolument. Okay. Mais est-ce que tout ça pour dire que, tu sais, on n'a pas ça ici? Fait que là, à un moment donné, oui, tu sais, la polémique attire l'attention, là, mais...
Mais c'est de la politique comédie, là.
Oui, oui.
On n'a pas ça ici, mais n'en demeure pas moins que si ça peut vous intéresser, la politique américaine, c'est le fun. Mais intéressons-nous à ce qui nous touche, 100%. Nous autres, d'abord et avant tout, municipal, provincial et fédéral. Tu voulais nous parler aujourd'hui des deux visions du monde que les États-Unis ont représentées et leur lien avec Trump et Harris.
Écoute, textuellement, c'est pas mal ça, mais écoute... Évidemment, tout le monde parle de ça, okay? Des élections. Tout, là, j'ai hésité, peut-être que je voulais te parler de ma délicieuse recette de macaroni au porc effiloché, mais je me dis, regarde, on n'a pas le choix, c'est demain soir. Fait qu'à un moment donné, il faut traiter du sujet. Là, tout le monde, ça parle de l'avortement, puis là, l'immigration, puis la déportation. C'est du local, c'est du d'interne. Ils géreront bien leurs troupes chez eux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les relations internationales. C'est comment les pays se positionnent par rapport aux autres pour bâtir ou défaire des alliances. Puis là, il y a deux visions qui s'opposent complètement dans cette élection-là. Tu as un côté plus... On va appeler ça isolationniste. Je pense que c'est un anglicisme assez dégueulasse, mais tu sais, qui veut que les États-Unis se retirent des affaires mondiales. Puis, tu as le côté Harris, qui est beaucoup plus multipôle, multirelationnel. Tu sais, là, on bâtit des alliances. Là, ben, c'est tellement flagrant comme différence entre les deux que c'est intéressant parce que tu te dis, ben, finalement, les États-Unis, le fondement idéologique de ce pays-là, c'est quoi? Fait que là, on est allé fouiller sur Internet, voir les déclarations des présidents avant, puis qui était plus isolationniste, qui l'était pas. Le père fondateur numéro un, George Washington, dans toutes ses positions par rapport aux relations internationales, disait « Nous autres, on va faire du commerce. On va être chum avec tout le monde parce que c'est ça qui vend. Nous autres, on est là pour faire le business, puis le reste, ça nous intéresse pas. » Thomas Jefferson, juste après, même affaire. Moi, la politique là, européenne, surtout que dans ce temps-là, on se ramène les années fin 1700, début 1800, c'était toujours la guerre en Europe. T'sais, c'était tout le temps en train d'essayer de se conquérir et tout ça. Donc là, le fondement des pères fondateurs, c'est de dire on s'en mêlera pas, nous autres, on va faire nos affaires, on va faire de la business, on va s'enrichir ensemble, on va avoir une démocratie ouverte, puis après ça, ben ils géreront leurs troubles ailleurs. Fait que tu sais, ça a été longtemps comme ça aux États-Unis, une espèce de position de non-ingérence par rapport aux affaires, surtout européennes, mais tu sais, évidemment, il y avait l'Amérique du Sud, il y avait l'Asie, tu sais, qui était en émergence. Ça a été vrai jusqu'à la Première Guerre mondiale. Parce que oui, les États-Unis ont fait certaines escapades. Là, il y a eu au Mexique là, avec les Rough Riders de Roosevelt. Puis là, après ça, il y a eu la doctrine Monroe, qui est un président qui disait « Nous, les Caraïbes puis l'Amérique du Sud, c'est notre sphère d'influence. Fait que si tu viens te mêler de ça, tu te mêles de mes affaires. » Fait que tu sais, il y a eu certains pas en avant, mais la vraie implication, si tu veux, des États-Unis à l'international, c'était la Première Guerre mondiale. Puis c'était le président Woodrow Wilson à ce moment-là qui a tout fait pour pas y aller. Puis là, finalement, il y a un bateau qui s'est fait couler où il y avait des Américains dessus. Puis là, boum, ça a tout déclenché. Puis ils sont allés se battre là-bas. Ça a duré de 1917 à 1918. Puis après ça, ben, il y a eu pas la Société des Nations, là, mais j'oublie le nom, mais le prédécesseur de l'ONU qui a été créé. Puis à ce moment-là, ben là, Woodrow Wilson a dit, « Ah, sais-tu quoi? On pourrait éviter des grands conflits mondiaux comme ça. On va essayer de faire des alliances ensemble. » Puis se parler avant que ça déraille.
Société des Nations.
Société des Nations, merci. Donc là, tout ça pour dire que ça a été fondé à ce moment-là, puis même localement aux États-Unis, après la Première Guerre mondiale, après qu'il y a eu des dizaines de millions de morts, de personnes qui sont mortes, il n'y avait pas beaucoup d'appétit pour former une alliance de ce type-là, parce que la crainte locale aux États-Unis, c'était toujours de se dire, est-ce que je vais me faire forcer à aller me battre parce que j'ai une alliance? Mm-hmm. Parce que là, ils ont vu ça découler. La Première Guerre mondiale, c'était ça, là, tu sais, c'était...
Sachant qu'eux avaient quand même beaucoup d'argent, de professionnel et de personnel, soit l'individu en soi, qui était prêt pour ça. T'sais, ça a toujours été une très grande force des États-Unis aussi, leur facilité de combattre. Ils ne voudraient pas peut-être la perdre au profit de quelqu'un d'autre quand ils n'ont pas à voir. Là.
Ben, ça n'a pas toujours été une force, hein, parce qu'avant la Première Guerre mondiale, l'armée aux États-Unis était vraiment...
était nulle.
Était vraiment très ordinaire. Puis avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était encore pire. Quand ils ont commencé à se battre, là, quand il y a eu Pearl Harbor, là, puis, en 1941... L'armée américaine n'était qu'un tissu de chagrin.
Mais là, parles-tu des ressources financières ou tu parles des ressources personnelles?
Les deux. L'armée américaine en 39-40, c'était vraiment n'importe quoi. Là. Il y avait de la misère à avoir assez de troupes pour contrôler leur territoire. Là, après ça, ils ont déclenché, puis là, ils ont parti toute l'espèce de révolution industrielle 2.0 pour faire de l'armement. Puis là, ils ont utilisé toutes les capacités des entreprises privées comme GE, puis Ford, puis bon, General Motors. Puis là, ça a commencé à produire pour la peine.
Fait qu'à partir de quand, ils sont devenus forcés d'admettre comme une très grande force militaire?
Bien, après la Deuxième Guerre mondiale, là, évidemment, il y avait une mobilisation incroyable.
Dans les 60, à peu près? 70? Ben,
c'est ça, il y a eu un creux après la Deuxième Guerre, parce que là, tout le monde était un peu comme on va reprendre notre souffle, là, fait qu'on va démobiliser, puis on va essayer de... Il y a eu le plan Marshall, là, qu'on connaît quand même bien, là, pour ceux qui sont moins familiers. En gros, George Marshall, c'était l'espèce de commandant suprême des États-Unis, puis il est devenu plus politicien, puis il a dit, garde, nous autres, on va reconstruire l'Europe, fait qu'on va faire des prêts, puis on va investir en Europe pour construire tout ça, c'est nos entreprises qui vont y aller. Évidemment, ça a été super lucratif, mais sans ça, il n'y aurait pas eu non plus de reconstruction européenne, parce que là, il manquait de capitaux pour le faire. Donc là, ça a mis un gros pied d'influence des États-Unis à ce moment-là en Europe. Puis là, bien, il y avait la confrontation avec l'Union soviétique, évidemment, là, en Allemagne, la séparation, le mur de Berlin par la suite. Mais tu dis dans les années 60, c'est vrai, parce que même dans les années 50, quand c'était Eisenhower qui était président, il y a eu un conflit au Liban. Puis là, bien, ça aurait pu dégénérer, parce que le Moyen-Orient, c'est toujours une espèce de paquet d'allumettes. Mais Eisenhower a comme fait une espèce d'expédition au Liban, puis là, ça s'est géré comme ça, local, puis ça allait arrêter là. Donc là, on avait vraiment une volonté de ne pas aller plus loin dans les conflits, on voulait se retirer de ça. La guerre froide a créé les alliances. Il y a eu l'OTAN, puis l'ONU s'est renforcée, puis il y a eu un paquet d'autres, des alliances militaires. Ce qui a fait en sorte que, comme tu dis, 60, 70, 80, là, les États-Unis étaient très, très multipolaires. Ils voulaient s'associer à tout le monde pour dire « c'est moi le plus tough dans la cour d'école, puis si jamais l'Union soviétique décide de faire le zaï, ben là, je vais avoir quelque chose pour pouvoir réagir. »
Les États-Unis se positionnaient comme shérif de la planète?
Oui. Oui, parce que, toujours pour se ramener à la philosophie de base de faciliter le commerce, une guerre... C'est bon pour le commerce, l'industrie. Ça l'est en ce moment pour l'Ukraine, là, malgré les personnes qui meurent là-bas tous les jours. Aux États-Unis, les entreprises d'armement font beaucoup d'argent. Donc, c'est bon pour l'économie, mais c'est pas bon pour le climat social global. T'sais, l'incertitude, c'est pas bon, puis bon. Fait que là, on veut minimiser les conflits tout en ayant le maximum d'influence pour s'assurer que les choses se passent comme on a besoin. Mais là, maintenant, le fast-forward en 2024, là, on n'est plus dans cette réalité-là de monde bipolaire où ce que tu avais l'URSS, les États-Unis. L'URSS, on sait ce qui s'est passé. Puis là, entre, mettons, 1991, quand le mur est tombé, puis on va dire 2020, les États-Unis étaient pas mal les seuls boss à bord, tu sais. Mais là, ils ont participé à la guerre en Afghanistan, ou en fait, ils ont initié la guerre en Afghanistan, encore pire, ils ont initié en Irak. Puis après ça, il y a eu plein d'autres conflits.
Les fameuses armes de destruction massive en Irak.
Ouais, hein. Qui étaient pas mal plus des armes de destruction invisibles. Là.
Finalement, on n'a rien trouvé. Ouais, on s'excuse.
On pensait, là, mais... On a pas pris de chance. On a fait du ménage, là.
Ouais, on aurait pas dû venir. Mais ça donne bien, ça donne bien mort.
Mais ça, by the way, là, ça a été une méga leçon pour les États-Unis, ce qu'ils ont fait en Irak et en Afghanistan.
Ouais.
Parce qu'ils ont voulu faire du nation building. Hein. Ils sont rentrés là-dedans puis ils ont dit on sac tout le monde à la porte. Puis même en Irak, c'était encore pire parce que là, le parti Ba'ath, qui était comme l'espèce de parti du pouvoir historique dans lequel Saddam Hussein s'impliquait, s'inscrivait. Ben, ils ont sacré tout le monde à la porte en disant, un peu comme ils ont fait avec les nazis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on va débaatifier, si tu veux, l'Irak. Mais là, ça finit que c'est des gens qui avaient une job pour vrai. Là, ils faisaient pas rien en vie. Là. Il y avait des soldats, oui, il y avait des policiers, il y avait des fonctionnaires. Fait que là, tu as tout mis à terre et tu repars de zéro. Mais tu sais, faire une start-up avec un pays de plusieurs millions d'habitants, c'est pas toujours la meilleure des idées. Puis ils se sont vraiment pété à gueule avec ça. Puis ça a pris du temps avant qu'ils puissent sortir parce que justement, sans eux, c'était le déluge. T'sais. Puis ça, c'est comme l'espèce de pas trop qui a été fait qui a créé ce sentiment. Là, on se ramène à aujourd'hui avec Donald Trump et Harris. Trump, sa vision, sa philosophie, là, c'est on se mêlera pas de l'affaire des autres. Ça coûte cher. De toute façon, le Canada paye pas ses factures. On se comprend, il faut doubler notre budget militaire. Tu sais, ça m'intéresse plus, moi, l'OTAN. On va faire mes affaires chez nous comme un homme d'affaires frais. Puis les autres, ben ils géreront leurs troubles. De l'autre bord, ben Harris, c'est Biden, c'est Obama. C'est toute la même philosophie de dire « Non, mais t'as peu, là, la Russie prend de l'envergure. La Chine commence à être tannante pas mal. Là, la Corée du Nord, ben c'est comme un sideshow, mais il faut les considérer. » Fait que plus on va s'allier ensemble, plus on va être fort, puis plus on va être un rempart contre ces influences-là. Puis c'est deux perspectives, deux visions des relations internationales qui s'opposent, qui sont complètement opposées. Là. Ça peut pas être réconcilié un sur l'autre. Soit que je m'implique, soit que je m'implique pas. T'sais.
Toi, mettons, de ton œil d'observateur, au-delà d'une partisanerie pour un parti ou pour l'autre, la stratégie moderne actuelle en 2024 qui devrait être adoptée, tu la vois comment?
Ben, c'est clair que c'est dans les alliances. Puis, by the way, je le dis, disclaimer, moi, j'ai pas de parti pris pour un ou pour l'autre. Si Donald Trump rentre, c'est pas vrai que ça va être l'hécatombe. Je veux dire, on s'en parlait juste avant de rentrer en onde. Je suis écœuré de n'entendre parler de ce gars-là. Mais, tu sais, ça finit tout le temps que le système contrebalance les extrêmes pour qu'il y ait une certaine orientation qui est donnée par le président, mais c'est pas lui qui mène. Là.
Non, ouais. Exact. T'sais, au même titre qu'il y a de ça quelques années, quand Trump était sur le point de rentrer à la présidence américaine, on va-tu vraiment donner les codes nucléaires? C'est mal connaître le système.
C'est ça.
Là,
il peut pas se lever un matin, puis là, il tilte sur Twitter parce que là, Rosie O'Donnell a dit quelque chose contre lui, puis là, il dit moi, il tirait des bombes.
Mais mal. Je sais pas pourquoi les gens sont au bout de leur chaîne de même. Concernant les élections présidentielles. Je vais juste revenir sur les deux dictateurs qui ont été tués là, en Irak. On a Saddam Hussein qui a été tué, puis tu avais le président libyen, c'était Kadhafi.
Oui, c'est Kadhafi.
Ouais. Je veux dire, ils ont fait une erreur là, de tuer. Les Américains, c'était pas Kadhafi, mais ils ont fait une erreur de tuer ces deux-là. C'était, oui. C'était les rois des fous.
Ben c'est ça, c'est comme le moindre
mal. Ils faisaient peur à tout le monde.
Oui, c'était le moindre mal, mettons.
Exact.
Parce que là, s'il y a des Kurdes qui nous écoutent, puis qu'on dit, ah, finalement, Saddam Hussein, c'était pas si pire que ça. C'est sûr qu'ils débarquent pour me donner une claque en arrière de la tête.
C'est ça.
Mais pour eux autres, c'était l'asile. Mais pour l'ensemble de la région, t'as raison. C'était des pouvoirs autoritaires très forts qui gardaient une certaine stabilité.
C'était les rois des fous. Fait que les autres, ils voulaient pas prendre trop de place. Donc, ils restaient à leur endroit. Puis c'était Saddam qui menait la barque. Puis c'était Kadhafi qui menait la barque de son bord.
Ouais. Ben, ouais. Kadhafi, tu sais, c'est pas.
Quel personnage, quand même, là.
Ben, c'est sûr que c'était. Tu sais, Kadhafi, je pense qu'il y avait 50 femmes, là, ses Amazones, là, qui étaient ses gardes du corps.
Ses gardes du corps, ouais.
En tout cas, c'était une autre histoire. Là. Mais,
ça ressemble dire... plus à un film de Bleu Nuit qu'une armée.
Mais va pas là. Reste avec nous autres.
Oui,
reste avec nous autres.
Je vais revenir.
Je sais que le corridor.
Mais j'avoue que c'était risible. Il y a quelque chose de risible dans toute la prestance que ces hommes-là ont voulu avoir par le mal, par l'obligation, puis par la terreur dans un certain sens, d'avoir ce côté-là avec ces Amazones autour de lui. Tu sais, je comprends pas pourquoi ils en perdaient pas de la crédibilité.
Puis les fils de Saddam, qui étaient en Irak, qui se promenaient partout, qui menaient la région comme bon leur semblait, qui faisaient des atrocités. Mais pendant ce temps-là, tout le monde était tranquille parce qu'ils se disaient, si on n'est pas tranquille, les fous vont venir nous tuer.
Mais est-ce que les États-Unis vont faire peur à certains pays comme justement la Chine, la Corée ou la Russie dans les prochaines années? J'ai l'impression que les alliances commencent à être très, très fortes. La Corée qui s'est dit l'allié par excellence de la Russie pour mettre fin à cette guerre-là, puis vont aller jusqu'au bout. Dans la dernière semaine, on a encore parlé de ces proclamations-là, entre autres, de la Corée. Il se passe beaucoup de choses dont on parle peu. Tous les talibans qui réussissent quand même à instaurer un certain respect, pas juste une obligation de terreur, un certain respect, puis tu sais, je le mets entre parenthèses en ce moment, qui ont repris un certain pouvoir au-delà des droits humains et droits de la femme. Ça, c'est évident là, quand on parle de talibans, mais est-ce que les États-Unis vont être capables d'instaurer un genre de prestance comme ils l'ont instauré à travers les dernières décennies jusqu'à maintenant auprès de ce genre de pays-là et de dictature ou de politique?
Bien, c'est une bonne question parce qu'en ce moment, c'est des demi-mesures qui sont mises en place depuis longtemps. Tu sais, si on regarde la guerre en Ukraine, c'est le meilleur exemple. Les États-Unis ont soufflé le chaud et le froid, là, la pierre, mais dans le sens que, tu sais, ils ont comme dit un peu, ben on va s'impliquer, mais on n'enverra pas de troupes, mais envoyer des armes, mais là, ça dépend du Congrès, puis là, c'est un package, mais ça implique pas des missiles à longue portée. Ça a été comme un peu tout le temps en nuance. Puis là, je comprends l'idée, tu fais tout le temps un petit pas en avant, puis là, tu regardes comment Poutine réagit, puis là, tu essaies de te rendre le plus loin jusqu'à temps que ça casse. Je comprends
ça. Il fait la même chose, lui, là.
C'est ça. On comprend toute la stratégie, sauf que des demi-mesures comme ça, ça finit tout le temps que tu crées plus de problèmes que t'en règles, parce que soit que t'es très tranché, que ça marche pas, puis si tu décides d'aller en avant, ben on va réagir très fortement, ou au contraire, tu t'en désengages complètement, puis tu laisses les choses se régler par d'elles-mêmes. Mais quand t'es dans l'entre des deux, c'est tout le temps la meilleure solution politique, parce que t'essaies tout le temps de ménager les choses, mais tu règles rien. Puis ça fait des conflits qui s'étirent pendant longtemps, parce que là, en Ukraine, on n'est pas sorti du bois. Là. On a encore 2-3 ans en avant avant que ça se règle d'un bord ou de l'autre. Là. Parce qu'en ce moment, la Russie, ça va très bien pour eux. Malheureusement, pour en tout cas, personnellement, je suis pas vraiment d'accord avec leur guerre d'agression, mais c'est une autre histoire. Sauf que ça va très bien pour eux. Puis de l'autre bord, les Ukrainiens, ce qu'ils nous disent, c'est « j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'armement, puis j'ai besoin de support politique, puis il n'y a aucun de ces trois-là qui se matérialise. » Alors qu'au début de la guerre, puis on ramène aux alliances, c'était Joe Biden qui était là, puis c'était très renforcer l'OTAN. C'est-à-dire, écoute, là, on est une alliance, les pays européens, ils ont leur rôle à jouer pour protéger leur cour arrière. Là. Donc là, tu sais, la France était sortie très fort, l'Allemagne était sortie très forte, même la Pologne. Puis là, oups, ça s'est un peu amenuisé, il y a eu des élections à travers tout
mais
ça.
Mais ils pouvaient pas intégrer l'OTAN, ils pouvaient pas intégrer l'Ukraine à l'OTAN parce que l'Ukraine était en guerre.
Ouais, mais ça, c'est comme une raison, si tu veux, parce que ce qu'ils voulaient, c'était pas frustrer Poutine au point de dire que là, il faisait des choses qui n'avaient pas de bon sens. Sauf que, en réalité, ça se matérialisera pas de sitôt, là, l'OTAN. Là. Parce que faut que la guerre se... Maintenant, là, comme, où ce que c'est rendu, c'est ce que dit qui est vrai. Faut que la guerre se règle avant qu'il y ait des alliances qui s'ajoutent.
Exact.
Fait que là, ben, tu sais. Mais la Moldavie juste à côté, ben, ils vont rentrer dans l'Union européenne. Fait que là, tu sais, il y a des choses qui se trament en coulisses pareil. Là. Sauf qu'il faut qu'il y ait encore une Ukraine à la fin pour qu'elle rentre en OTAN.
Exact. David Chabot fait mal un peu au peuple québécois. Là. si on regarde le programme de Donald Trump, okay, tel qu'il est, là, protectionnisme et tout ça, ce programme-là ressemble à quel programme de quel parti au Québec?
Je sais ce que tu veux que je te dise. Okay? Mais je vais te répondre en demi-teinte parce que je viens de la politique.
Hein? Okay,
je vais te dire que c'est sûr que le sentiment nationaliste dans un monde où... tu sais, les enjeux de mouvance sociale, l'immigration, tout ça, ça fait peur. Tu veux protéger ce que tu es et ce que tu connais. Donc, évidemment, qu'il y a certains partis politiques québécois qui aiment beaucoup le bleu. Là.
Comme?
Le bleu dans différentes nuances.
Oui.
Non, mais on va se dire.
C'est juste ça, tannant, de comparer comme ça. C'est tellement différent. Mais ben, ça, je comprends les similitudes.
C'est
mais
clairement le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec.
Mais il y a un sentiment nationaliste en arrière. C'est pas la même chose, parce qu'évidemment, ils sont pas aussi trash que Trump or Light. Là, mais
c'est même pas le même genre de système politique, ça marche pas.
Non,
c'est
pas ce programme.
Sauf que, tu sais, le sentiment de protectionnisme de la nation, là, on parlait de d'isolationnisme et protectionnisme tantôt. Ouais.
Dans les similitudes.
Ça ressort tout le temps.
Ouais. Économique, en tout cas, ouais, mais...
On est comme dans une période de transition mondialement, en plus. Là,
ce serait grossier de dire que c'est la même chose.
Ah non, pas du tout, moi, ça me fait grossier.
Grossier et vulgaire.
T'es un rustre personnel.
Oui, avec ton hoodie bleu, on sait bien que t'es un partisan et un fier compatriote du Bloc québécois, puis de...
Parti québécois.
Parti québécois. Mais tout ce que tu veux, fédéral ou provincial, tu choisis.
Ouais. Là, toi, tu vas-tu prendre trois mois de congé? Là?
Hein?
Comment ça, non?
Ben là, Gabriel Nadeau-Dubois a pris 3 mois de congé pour être avec son enfant. Là.
Ah, ben, j'y songe justement avec ma douce moitié pour avoir des congés. C'est la seule
raison. Je me suis posé la question, si jamais on n'avait pas écrit d'article là-dessus sur son congé de 3 mois, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'en seraient rendus compte?
Ben, probablement les gens du bureau chez eux, là, mais... Non, mais c'est...
Mais un congé parental, 8 semaines.
C'est pas un congé parental. Ouais, lui, il le prend.
Mais il en parlait pareil.
Ça, c'est une affaire, toi. T'es en politique, là. Mm-hmm. J'en reviens pas que les gens de l'Assemblée nationale puissent pas prendre leur congé parental.
Non,
c'est un peu débile.
Ouais, parce qu'on donne un standard aux politiciens qui est vraiment comme insoutenable. Parce qu'il faut qu'ils soient présents tout le temps. Il faut qu'il n'y ait jamais une coche mal taillée. Il faut que la famille passe toujours en deuxième. Puis ça finit... Pour vrai, là, tu sais, on dira ce qu'on veut des politiciens, mais c'est très taxant sur une vie familiale, ce qu'ils font, là. Fait que d'avoir un peu plus de conciliation, c'est peut-être pas une mauvaise affaire en soi.
Si on veut en garder, si on veut en encourager dans cette... Ouais.
Ouais. Père Marois Risky, là, je veux dire, c'est quand même une excellente politicienne. Oui. Là, que j'enlève la couleur là-dedans. Mm. Là, je m'en fous qu'elle soit rouge, qu'elle soit bleue. T'es pour le Parti libéral. On la perd, puis je trouve qu'elle était très pertinente. Là.
Oui, absolument.
Mais c'est pour ça qu'il faut en jaser de ces congés parentaux-là aussi. Là.
Oui, parce que ça finit tout le temps que si tu n'as pas d'accommodement pour ça, ben, tu vas avoir des politiciens soit très jeunes, qui sont idéalistes, qui ont des belles idées, mais qui sont peut-être pas nécessairement prouvés sur le terrain, ou des personnes en fin de carrière qui, eux, ben, ils ont leur vision très cristallisée de la réalité.
Et même pas le même rapport aux finances aussi. Quelqu'un qui est oui. en fin de carrière, qui a un certain statut financier, si tu as été en politique pendant un bout, tu ne gères pas de la même manière que si tu as un autre âge. Là.
Ben, c'est ça. Puis là, ça finit que tu as des Fitzgibbon qui ont fait une longue carrière, qui connaissent tout le monde, qui se font attaquer parce qu'ils connaissent tout le monde. Puis tu en as d'autres, là, je nommerai pas de nom, qui arrivent en politique, qui n'ont jamais rien fait. Puis ils sont comme « Ah, ben moi, je pense que la société, ça va être ça. »
Ouais. La parentalité amène beaucoup de douceur aussi oui. et d'un autre aspect de vision.
C'est ce qu'il dit.
J'ai pas essayé encore.
Ça met de l'expérience, la parentalité.
Imagine-tu comment on va être merveilleux, David, après?
Ah, Yann, t'es un gars tout en nuance à
oui.
cause de ça.
Ah, oui, en nuance, on l'a vu dans les dernières minutes.
Ah, oui, j'ai un gars comme ça. Merci beaucoup, David Chabot. Ah, on se reparle la semaine prochaine. Vous êtes sur les ondes de Boulevard. Merci d'être là. On vous pousse du The Offspring dans les oreilles avec Self-Esteem à l'instant.